Place Info.
L'information de ce soir, le gouvernement disposait à retirer l'âge pivot qui devait entrer en vigueur en 2022. C'est écrit noir sur blanc sur le courrier qui a été adressé par le Premier ministre au syndicat. L'UNSA et la CFDT saluent cette décision. Du côté de la CGT solidaire, on est un peu moins contents. Ils poursuivent la mobilisation jusqu'à ce que l'ensemble du texte soit retiré. En tout cas, ce soir, le front syndical est fissuré, d'où cette question. Est-ce que la majorité, est-ce qu'Édouard Philippe a réussi son coup? On en débat avec Patricia Issa de Grandi, journaliste à France 3. Bonsoir Patricia. Philippe Gouliot, vous avez été longtemps reporter au Figaro, accrédité à l'Élysée. Ça nous sera précieux hein, pour comprendre ce que fait Emmanuel Macron sur cette réforme de la retraite. Cécilia Gabizon également est avec nous, fondatrice de la Street Media School. Et à vos côtés, Robert Namias, journaliste, écrivain et auteur de Fake News, co-écrit avec Michel Cotta. C'est aux éditions Robert Laffont. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Les informés jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. C'était sans doute la lettre la plus attendue du jour et on imagine qu'elle a été écrite minutieusement, relue et à nouveau relue par les conseillers de Matignon. Lettre donc d'Édouard Philippe au syndicat. Avec cette phrase d'Édouard Philippe, le Premier ministre, « Je suis disposé à retirer du projet de loi » la mesure de court terme que j'avais proposée, mesure qui consistait à converger progressivement à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027. C'est un peu technique, hein, beaucoup d'informations dans cette seule phrase et premier tour de table. Est-ce que c'est une concession importante, Robert Namias?
Alors, concession importante de façade, oui, puisque si dans l'article, je parle d'article, disons dans le paragraphe 7, il est dit qu'il renonçait au pivot, pour l'instant, il ne renonce pas dans l'article 3, je crois, de son texte, à l'idée d'un équilibre nécessaire et indispensable. Malgré tout, à la question « Est-ce que le front syndical est divisé ?», la réponse est oui, clairement, c'est un fait objectif. Il suffit de lire les communiqués des uns et des autres. Et c'était quand même politiquement le premier but recherché. Bon, quand vous avez à la fois la CFDT, l'UNSA et la CFTC d'un côté, et de l'autre côté la CGT, le Sudrail et FO, vous avez un front syndical qui est divisé et qui ne recollera pas les morceaux, quoi qu'il arrive. Et de ce point de vue-là, il est clair que l'opération politique qui consistait à désamorcer une crise dont on voyait plus très bien où elle allait, permet au gouvernement au moins de se donner une respiration, le temps de désamorcer l'autre crise qui est la crise de la rue et de la grève. Et il faudra voir objectivement ce qu'est aujourd'hui la grève et la rue, parce que les deux vont de pair finalement.
Vous dites ça permet de redonner de l'oxygène effectivement au gouvernement. Philippe Gouliot, est-ce qu'il s'agit aussi de redonner de l'oxygène à la majorité? On sait que ça a été tendu ces derniers temps autour de cette question de l'âge pivot et qu'une partie des députés réclamait un geste.
Oui, je pense que ça va donner un peu d'oxygène au gouvernement, à la majorité. C'est vrai que c'était un geste attendu qui a beaucoup traîné, je trouve, tout de même. Alors, est-ce que c'est vraiment...
C'est un geste avancé, il ne dit pas recul pour l'instant dans la majorité.
Non, il ne dit pas recul, mais enfin bon, parfois ça... Justement, on parlait tout à l'heure du fait que j'avais été correspondant à l'Élysée. Moi, je me souviens de cette promulgation du CPE et de la suspension de la mesure. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? On verra. Sans doute pas, parce que là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus subtil, je dirais. Mais c'est vrai que ça va redonner un peu d'oxygène au gouvernement, qui en avait bien besoin. Et je le répète, on a perdu beaucoup de temps dans tout ça, parce qu'au fond, ça fait 2 ans et demi qu'on nous dit qu'on discute, et personne n'y connaît rien, personne ne savait jusque-là ce qu'il y avait dans cette réforme. Et je trouve que c'est très malencontreux.
On va entendre la majorité. Hein. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, évoque un compromis, une avancée en ce qui concerne ce retrait.
C'est une avancée, oui, bien sûr.
De l'âge pivot. C'est une avancée, nous dit Philippe Gouliot. Tonalité similaire du côté d'Aurore Berger, porte-parole d'En Marche, qui loue la constance du Premier ministre. Elle était sur France Info.
Ça fait 2 ans que nous, on dit qu'il va falloir évidemment que la réforme marche sur ses 2 jambes, à la fois plus de justice sociale avec un régime universel, par points, la fin des régimes spéciaux, et puis la manière avec laquelle on doit financer le régime. Et c'est bien ce que l'on démontre aujourd'hui, à la fois comment on le finance à court terme pour garantir le retour à l'équilibre dès 2027 et comment on le finance sur le long terme. Et c'est exactement ce que le Premier ministre a fait avec le courrier qu'il a envoyé aux partenaires sociaux et certains partenaires sociaux qui l'ont accepté.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la Street Media School, vous voyez lever les yeux au ciel.
De la School Media Maker.
De la School Media Maker, pardon. Je voyais lever les yeux au ciel en écoutant...
Non, mais parce
écoutant,
que moi, je rebondirais sur ce que disait Philippe. Tout ça pour ça, 37 jours de grève très dure, avec des conséquences économiques qui vont être assez fatales pour pas mal d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, plein d'employés qui ont galéré, de salariés, de travailleurs en tout genre. Et puis, c'est pas que ça. Et aussi une fracture un peu sociale, c'est-à-dire on est reparti dans un conflit, une tension dans le pays qui est gigantesque. On évoquera tout à l'heure, je crois, la question des violences policières. Mais donc ça, c'était pas anodin, cette grève, ce mouvement. Et à la fin, pour reculer, et on a l'impression qu'il s'agit...
Et comment vous l'expliquez, justement, que la porte n'ait pas été ouverte plus tôt, ce que demande aussi François Hollande? Pourquoi ce geste n'a pas été fait plus tôt?
Je sais pas, on a le sentiment qu'il y a pas mal d'amateurisme. C'est-à-dire que finalement, on se demande un peu ce que Christian Delevoye avait préparé. C'est, finalement, il y a eu, on a négocié pendant des mois, mais on ne savait pas quoi. Et puis, au moment où on l'a découvert, ben, évidemment, ça a embrayé sur une grève. On l'a découvert très tard. Et même aujourd'hui, là, je dirais, il me semble que c'est un problème un peu de la sémantique, l'âge pivot et l'équilibre. On est quand même dans des notions qui restent assez floues concrètement sur ce qui va arriver aux gens. Donc, je pense que, au départ, la majorité a dû penser qu'ils arriveraient à faire passer la réforme. Et ils avaient l'air très décidés, quand on parlait avec les conseillers, à tenir bon pour la faire passer. Et puis finalement, ils avaient sous-estimé la capacité de la ténacité aussi des grévistes. Et en fait, ils ont reculé. Et on se retrouve dans la sémantique, dans quelque chose d'un peu plus dilué, qui est « Ah ben, on va voir au cours des prochains mois comment on va faire ».
Patricia Issad, grandi journaliste à France 3. Le gouvernement attendait de voir comment, comme le dit Cécilia Gabizon, comment la contestation allait tourner avant de prendre une décision.
Alors moi, je pense plutôt que là, le Premier ministre a été très habile, parce que finalement, c'est une fausse concession. Hein, parce qu'il leur dit, ok, je concède, mais c'est provisoire. Si vous ne trouvez pas le moyen de financer...
C'est provisoire.
C'est provisoire. Donc, c'est provisoire. Donc, si vous ne trouvez pas le moyen de financer pendant la conférence de financement, eh bien, je reprends la main et je me donne le droit de remettre l'âge pivot dans le texte. En fait, je pense surtout que tout est assez calculé chez Édouard Philippe. Qu'Édouard Philippe, il est parti sur une position assez dure, une position de départ assez dure, et que, donc du coup, il arrive durement, on discute beaucoup, on arrive à une concession, et enfin, on peut réformer. C'est un peu la méthode macronienne depuis le début de ce quinquennat.
Et on se posera la question et on écoutera les réactions des syndicats assez divisés. Édouard Philippe a-t-il réussi son coup? Réponse dans quelques instants, 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info, Guillaume Fariol.
Emmanuel Macron salue un compromis constructif et de responsabilité sur la réforme des retraites. C'est ce que fait savoir l'Élysée à l'instant. Après la lettre envoyée par Édouard Philippe aux partenaires sociaux, le Premier ministre retire sous condition l'âge pivot du projet de loi et renvoie à la conférence de financement qui se tiendra dans les prochains mois. Pas de quoi convaincre l'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle jeudi la semaine prochaine. Une intersyndicale sans la CFDT et l'UNSA qui, elle, salue ce retrait de l'âge pivot. Aujourd'hui, cinquième journée de manifestation, 150 000 opposants à la réforme dans les cortèges à travers la France selon les autorités, 500 000 d'après la CGT. Le policier renversé près de Lyon pendant une intervention la nuit dernière est toujours dans un état critique entre la vie et la mort. Le conducteur qui l'a volontairement heurté avec son fourgon est en fuite. La maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate à un deuxième mandat au municipal de mars. Elle l'annonce dans un entretien aux Parisiens. Le président iranien Hassan Rouhani promet de traduire en justice les responsables du crash d'un Boeing ukrainien abattu par erreur près de Téhéran il y a 3 jours, 176 morts. Il l'a promis à son homologue ukrainien pendant un échange téléphonique. Et puis Clermont-Ferrand et Toulouse qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Les deux clubs remportent leur dernier match de phase de poule.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Vous venez de l'entendre dans la voix de Guillaume Fariol. Emmanuel Macron salue un compromis constructif et de responsabilité après le courrier adressé par Édouard Philippe aux partenaires sociaux. Philippe Bouliot, on le rappelait, vous avez longtemps suivi pour le coup l'Élysée, vous étiez accrédité à la présidence, notamment pour le Figaro. On sait que le président avait demandé dans ses vœux un geste au Premier ministre. Il y a un pas de deux, il y a une répartition des rôles entre les deux têtes de l'exécutif.
Oui, il y a une répartition des rôles qui, en fait, est une répartition, selon moi, extrêmement classique dans la Ve République. C'est-à-dire un président de la République qui définit les grandes orientations et qui, dans ses vœux, dit au Premier ministre « Maintenant, je veux un compromis rapidement ». Et le Premier ministre, qui lui est à la manœuvre, qui rencontre les partenaires sociaux, qui négocie, qui parle beaucoup, alors que le président de la République a été beaucoup plus avare d'expression sur la question.
Mais c'est une répartition des rôles ou une scénarisation?
L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est une répartition des rôles, je le répète, assez classique. On revient à une conception très traditionnelle de la Ve République. Et au fond, ça pas mal marché, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je trouve
disait Patricia Issat Grandi.
Je trouve que effectivement le Premier ministre Édouard Philippe a gagné beaucoup en densité et en autorité dans toute cette crise, même si, comme le disait Cécilia, il y a eu beaucoup d'amateurisme au départ. Mais je trouve que là, dans ces derniers temps, il a fait preuve d'autorité. Et puis il tranche, donc je trouve que c'est assez... On verra la suite, parce que le diable est dans les détails, mais je trouve que c'est plutôt bon pour le Premier ministre, et donc pour le Président.
Robert Damias.
Je reprends votre formule. C'est une scénarisation classique. Dans une affaire de ce genre, il y a un méchant et un gentil, là en l'occurrence... Avec l'âge pivot réintroduit, Édouard Philippe a joué le rôle du méchant et Macron est intervenu pour jouer le rôle du gentil. La vérité, et au fond, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont des déclarations qui sont passées relativement inaperçues, mais qui étaient celles de Martinez, de Mélenchon et d'une certaine manière de Marine Le Pen aujourd'hui en disant « Mais cette affaire de l'âge pivot, de toute façon, ça n'a aucune importance, il n'y a qu'une réforme. » Et la réforme, c'est la transformation systémique du système de retraite passant d'un système par trimestre un système par points. Et cela, on a compris aujourd'hui que cette réforme, elle passerait. Et au fond, on ne sait pas du tout s'il y aura des gagnants dans cette affaire. Politiquement, il n'est pas du tout sûr que Macron en tire profit. En revanche, il y a un perdant, je pense. Il y a un perdant. Et c'est la CGT. Car, quoi qu'ils disent sur les mobilisations, la CGT est Mélenchon, d'une certaine manière.
Mélenchon,
car quand vous regardez bien, en réalité, les grèves ne vont qu'en s'amenuisant. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a 4 TGV sur 5, ça veut dire que la grève, pratiquement, sur les grandes lignes de la SNCF, n'existe plus. La RATP, on voit que ça reprend progressivement. Et vous verrez dans les jours qui viennent. Et c'est tout à fait naturel, d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un mois, on ne peut plus faire grève comme on faisait grève le premier jour. Mais du coup, le pourrissement qui était recherché est en train de jouer et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est le premier point.
Mais vous évoquiez Philippe Martinez, peut-être pour abonder la conversation, on va l'écouter, hein, puisqu'il manifestait aujourd'hui à Paris et qu'effectivement, vous le signaliez, il avait pris la parole pour dénoncer en quelque sorte le débat sur l'âge pivot en disant que ça ne suffirait pas, que bouger sur ce point-là ne suffirait pas. Il réagissait avant même l'envoi de la lettre par Matignon. On va écouter Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
L'âge pivot, il existe déjà. Vous avez tous noté que malgré un âge légal à 62 ans, de plus en plus de gens sont contraints de partir presque à 64 ans, parce qu'ils n'ont pas leur trimestre. Donc c'est bien le système actuel qu'il faut améliorer pour que l'âge légal redevienne la référence pour tout le monde et qu'on puisse partir à un âge légal, nous on propose 60 ans, avec suffisamment pour vivre. Mais l'âge pivot, c'est un trompe-l'œil, ce débat sur l'âge pivot, puisqu'il existe déjà, et d'ailleurs le gouvernement le dit.
Et du coup, Robert Damias, on comprend la réaction de la CGT ce soir, qui annonce poursuivre la mobilisation.
Non mais on voit bien qu'en plus, encore une fois, politiquement... On ne sait pas du tout si Macron peut en tirer profit. Je pense que, pour l'instant, son image personnelle est très très abîmée. Et il aura beaucoup de mal à reconquérir électoralement des électorats qu'il a perdus, en particulier à gauche. Ça, c'est clair. Mais en revanche, encore une fois, quand on voit à la fois combien de grévistes, c'est-à-dire combien de divisions, finalement, hein, uniquement à la SNCF et à la RATP, et de moins en moins. Combien de manifestants? On voit bien que depuis, à l'exception du 10 décembre, on voit bien qu'il y a de moins en moins de manifestants.
Oui, mais ça dure quand même.
Oui, mais ça dure, ça crée, c'est pour ça. À la fois, ça crée une image de désordre qui, incontestablement, est très mauvaise pour Macron et pour l'image politique de Macron. Mais encore une fois, je maintiens qu'on ne sait pas du tout qui peut gagner cette affaire. Mais je dis que la CGT a déjà perdu.
La CGT a perdu, Cécilia Gabizon, c'est fini.
Moi, je pense pas, parce qu'on a annoncé, que la CGT avait perdu sur toutes les dernières années,
sur la réforme de la SNCF, elle a perdu. Du travail, elle a perdu.
C'est vrai que les syndicats ont perdu de leur force tous au cours de ces dernières années. Là, quelque part, au contraire, ils ont fait la démonstration, une démonstration assez classique, qui pouvait encore mobiliser, en tout cas dans certains corps, et avec, surtout en région parisienne, ça a été très visible, parce que c'était les transports urbains. Donc, et finalement, on les annonce toujours perdus, et ils reviennent, parce que il y a tellement de crispations en France, et tellement d'inquiétudes, que quand bien même les gens ne soutiennent pas les syndicats, en fait, ils soutiennent, en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent, la grève. Donc, même s'il y a peu de manifestants sur le terrain, il y a une espèce de climat qui fait que c'est encore possible et que la bataille de l'opinion n'est plus jamais ni gagnée ni perdue. Parce que là, sur la retraite, la réalité de la retraite, on ne la connaît pas pour les gens qui vont être touchés par cette retraite par points. On ne la connaît pas. La réalité politique de la retraite, on ne la connaît pas non plus parce qu'en fait, tout ce qui a été accordé là dans les négociations et encore ça à l'avenir, ça fait qu'en fait, on n'a aucune cartographie claire de ce qu'est finalement cette réforme. Et donc, finalement, par contre, on ne peut pas se faire une idée politique de ce qu'est cette réforme des retraites.
Patricia Issat-Grandi, effectivement, c'est l'objectif peut-être aussi d'Edouard Philippe. Ce soir, on ne parle que de l'âge pivot. C'est-à-dire on parle plus du reste de la retraite.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il a fissuré le front syndical et qu'aujourd'hui, maintenant, eh bien, il n'y a plus d'âge pivot, bon, c'est provisoire. Ils vont se réunir pour discuter des financements. La CGT, du coup, va se raccrocher à quoi? Effectivement, je suis assez d'accord avec Robert Damien, c'est compliqué.
Ça va être
difficile. Donc ils vont aller dire, c'est tout le texte qu'on veut, que personne ne connaît, c'est flou, qu'on veut voir partir à la poubelle, sauf que...
Pour vous, Philippe Martinez est isolé?
Pas isolé, parce qu'il a quand même, il y a quand même du monde encore dans la rue, mais je pense que là, pour le coup, il est fragilisé. Et que sa force de frappe va être moins importante dans les négociations.
Philippe Gouliot.
Je suis d'accord avec Patricia, avec quand même une nuance, c'est que l'année dernière, au moment des Gilets jaunes, les syndicats et notamment la CGT ont été aux abonnés absents. On ne les a pas vus, on ne les a pas entendus et on ne s'intéressait pas à eux. Et là, d'une certaine manière, quand même, la CGT a un peu repris la main. Elle va perdre ce combat, probablement. On ne peut jamais être totalement certain. Mais... elle a quand même, elle est remontée sur le devant de la scène. La
CGT... vous ne pouvez pas dire.
Mais là, le rapport de force,
il
est redistribué.
Il faut faire la différence entre l'action syndicale qui vise une réforme.
Secondes, s'il vous plaît, Robert.
Ce point de vue-là, il est clair maintenant que le gouvernement ne retirera pas sa réforme.
C'est sûr.
Cette réforme sera votée. Et la réforme systémique, qui est une réforme très importante, fondamentale, dont on ne sait pas d'ailleurs quelles conséquences elle aura. C'est bien le problème d'ailleurs, qui est troublant. C'est qu'on ne sait pas du tout quelles conséquences ça aura dans 20 ou 30 ans, effectivement, très concrètement, pour chacun de ceux qui toucheront leur retraite à ce moment-là par point. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que syndicalement, l'action menée depuis un mois et demi ne débouchera sur rien en ce qui concerne la CGT, alors que la CFDT...
Robert Damien, on entendra justement ces syndicats réformistes, on va les entendre dans quelques instants et on va entendre leur réaction et continuer à débattre de ce front syndical fissuré ce soir. Je vous interromps parce que il est 20h20 sur France Info et donc c'est le rappel de l'information. Guillaume Fariol nous a rejoint. Guillaume.
La CFDT et l'UNSA se félicitent, la CGT réaffirme sa détermination à obtenir le retrait du texte. Les syndicats divisés après cette annonce de l'exécutif sur la réforme des retraites, l'âge pivot est retiré sous condition. Le Premier ministre demande aux syndicats de trouver une alternative pour ramener le régime des retraites à l'équilibre financier. Emmanuel Macron salue un compromis constructif et de responsabilité. La grève, elle, se poursuit. Demain, toutes les lignes de métro ouvertes à Paris, mais avec un trafic partiel. À la SNCF, comme aujourd'hui, 80% des TGV et la moitié des TER en circulation. Un homme recherché dans le secteur de Lyon, soupçonné d'avoir renversé intentionnellement un policier la nuit dernière à Bron. Le fonctionnaire est entre la vie et la mort. Les proches de Cédric Chouvia seront reçus mardi par le ministre de l'Intérieur. Ce livreur de 42 ans, mort d'asphyxie la semaine dernière après son interpellation à Paris. Une enquête ouverte pour homicide involontaire. Une équipe d'enquêteurs canadiens attendue dans les prochaines heures en Iran, trois jours après le crash d'un Boeing d'Ukraine Airlines. Plus de 170 morts, dont de nombreux Canadiens. Téhéran reconnaît avoir accidentellement abattu l'appareil avec un missile. Et puis la 20e journée de Ligue 1 de football, 5 matchs en ce moment, ils ont débuté à 20h. Entre autres Amiens qui mène 1-0 contre Montpellier. Pareil pour Nîmes face à Reims, toujours 0 partout entre Angers et Nice.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
L'UNSA et la CFDT qui saluent ce soir la décision prise par le Premier ministre Édouard Philippe, disposait à retirer l'âge pivot qui devait entrer en vigueur en 2022. Âge pivot qui devait permettre de trouver des économies et d'assurer l'équilibre du système de retraite. Satisfaction donc, je le disais, de l'UNSA. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de la centrale, était sur France Info.
enfin, si je puis dire, il a écouté ce que l'UNSA lui demandait depuis quelques mois, c'était effectivement de ne pas mettre cet âge pivot dans l'horizon, alors que les salariés avaient déjà beaucoup, beaucoup donné pour que les retraites soient à l'équilibre. Donc oui, ça va détendre l'atmosphère, et oui, nous sommes favorables à cette conférence des financeurs pour trouver des solutions intelligentes et collectives. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs mesures, quelques mesures. Un, cotisation sociale employeur, ou différence d'assiette de cotisation. Deux, le fonds de réserve de retraite qui est à 33 milliards d'euros aujourd'hui. Trois, vous avez aussi bientôt la fin du remboursement de la dette sociale, qui va libérer 7 à 9 milliards par an. Donc vous voyez qu'il y a des pistes que nous pouvons mettre ensemble et que nous pouvons effectivement faire un cocktail de mesures. Et ça, nous y croyons beaucoup.
Patricia Issa de Grandi, cet âge pivot, on explique, il y a en réalité deux âges d'équilibre. Il y a celui qui va courir jusqu'à 2027, c'est celui-là qui est temporairement mis de côté, mais celui qui est dans la réforme à proprement parler, celui-là, a priori, il n'est pas retiré.
Bien non, il ne bouge. Enfin, pour l'instant, il n'est pas retiré. Et justement, pour aller de 2022 à 2027, le Premier ministre avait calculé que ça rapporterait l'âge pivot 12 milliards d'euros. Eh bien, il leur dit aujourd'hui, vous allez aller en conférence de financement et vous allez trouver des solutions. Il va falloir trouver le financement pour aller sur ce fameux âge d'équilibre en 2027.
Et s'il n'y a pas de solution ?
Et s'il n'y a pas de solution, on remet l'âge pivot.
Il prendra ses responsabilités.
Il reprendra la main, voilà.
Il le dit dans la lettre, je prendrai mes responsabilités.
Voilà. Donc en fait, d'où c'est une fausse concession, parce que est-ce qu'ils vont vraiment trouver une solution ? Ils vont trouver une solution, les syndicats ? Pour
tâcher,
12 milliards d'euros.
Ils ont intérêt à la chercher.
Ils vont la chercher,
sans doute à la trouver.
12 milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
On les trouvera, ces 12 milliards d'euros.
Qu'est-ce qu'ils vont proposer ?
Ce qui est très inquiétant dans cette affaire, c'est
Robert
que
Namias.
Les frustrations s'accumulent
oui.
De mois en année et de dossier en dossier. Je dirais presque de réforme en réforme. C'est ça qui est très, très ennuyeux. Parce que, au fond, ce qui se passe depuis 2 ans et demi avec les réformes de ce gouvernement, c'est qu'elles se font toutes quand même plus ou moins à marche forcée, il faut bien le dire. Contre les syndicats, souvent avec violence. La violence s'est retournée contre le gouvernement dans la rue depuis un an, si bien qu'on est dans une société totalement déchirée, et dont on voit bien qu'effectivement, le gouvernement sur le plan politique gagne pratiquement à tous les coups, et je dis qu'il va gagner cette fois-ci encore, mais à quel prix ? Et ce prix-là, on ne le verra que dans les urnes politiquement. Au profit de qui ? Alors certains, et malheureusement, je pense que ces certains-là n'ont pas tout à fait tort. C'est qu'on voit bien que la facilité est de dire ça va profiter essentiellement à l'extrême droite, pas même à l'extrême gauche d'ailleurs.
Quand vous dites dans les urnes, c'est dès les municipales ?
Non, parce que les municipales n'ont pas de sens politique. On en tirera des leçons qui ne sont pas des vraies leçons. La véritable élection, vous savez, c'est la présidentielle aujourd'hui. Et cette élection-là, elle n'est que dans 2 ans. Et dans 2 ans... le pays ne sera sans doute pas complètement réparé. Alors le sera-t-il suffisamment pour que Macron ait quelques chances d'être réélu ? Est-ce qu'il se passera autre chose et quoi ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces réformes qui se font, en fonction, il faut le reconnaître, de ce qu'avait annoncé l'actuel président de la République, se font encore une fois, je maintiens cette expression parce que c'est vraiment à marche forcé et non consensuel. Et réformer un pays de manière non consensuelle, c'est prendre politiquement un risque majeur.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. À quoi faut-il s'attendre dans les semaines à venir pour vous dans la rue ? Est-ce que le mouvement va se poursuivre ? Est-ce qu'on risque de voir un découragement des manifestants et de la mobilisation ?
On ne sait jamais. En tout cas, il y a une part des manifestants qui sont très radicalisés, c'est-à-dire ils sont vraiment dans une colère, en fait. C'est à la fois dans une inquiétude et dans une grande colère. Et la colère, elle retombe pas. C'est comme de la poussière, quoi. Quand elle est dans l'air, ça retombe pas. Alors je pense qu'il y a une partie qui peut continuer, en fait, à être dans cette colère. Et quelle forme vont prendre cette colère ? Ça sera peut-être plus des manifestations ou des blocages de transport, des grèves. Mais en fait, en tout cas, la colère va perdurer. Il y aura probablement encore des appels à la grève, hein, parce que toutes les corporations vont continuer, les corporations vont continuer à négocier. Et en fait, elles sont capables, chaque corpo, à Paris, on est très sensible au transport, mais il y a eu plein d'autres corporations qui ont manifesté, elles
on
sont capables voilà, de faire des blocages symboliques, des blocages de fonctionnement. Donc en fait, ça va continuer à négocier corporation par corporation, parce que je pense par contre que le système de la retraite universelle, en réalité, celui-là ne va pas tenir. Dans le sens où chacun va renégocier, en fonction de ce qu'on dit, de la pénibilité ou de la spécificité de son métier. Et en soi, c'est peut-être pas une si mauvaise idée parce qu'on se rend compte, l'universel c'est pas forcément ce qui est juste, le juste c'est aussi le spécifique qui concerne les différentes situations. Voilà. Donc ça je pense que ça va continuer dans les bras de fer, sur chaque corporation, chaque profession en fait ça va continuer.
Et le débat se poursuit dans les informés, on va continuer à décrypter mot par mot le courrier d'Edouard Philippe, se dirige-t-on vers une réforme usine à gaz? Réponse juste après la météo et le journal.
Demain, notre planète. France Inter et La Massif vous proposent un cycle de conférences animé par Mathieu Vidard.
Prochain rendez-vous mardi 28 janvier à 20h sur le thème « Se nourrir ». Du sol à l'assiette, nos habitudes alimentaires se transforment. Agriculteurs, sociologues, agronomes et chefs cuisiniers, ils viendront nous parler production, consommation et alimentation durable.
En direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec La Massif.
Massif, essentiel pour moi.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, plus de 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
France Info, les prévisions météo, Jean-Michel Golinski.
Petite faiblesse des hautes pressions demain sur les régions de la moitié nord, permettant à la perturbation peu active qui traverse les îles britanniques de donner un peu de pluie en matinée entre le nord de la Loire et le nord de la Seine. En journée, ce temps maussade va gagner vers le Poitou-Charentes, le centre et le quart nord-est, tandis que des éclaircies vont revenir par la Manche. Dans le sud-ouest et du massif central à Rhône-Alpes, les plaques de grisaille et les brouillards évolueront parfois assez lentement vers l'éclaircie. C'est finalement comme aujourd'hui dans le quart sud-est que le temps sera le plus dégagé. Les températures de l'après-midi, très peu différentes de celles d'aujourd'hui, vont afficher 5 à 8 degrés sur les régions de l'est, 9 à 12 dans la moitié nord, également près de l'océan et dans le quart sud-ouest, et 13 à 16 autour de la Méditerranée, avec en fin de nuit de faibles gelées sous abri possibles, notamment sur la Bourgogne, la Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes et au sud de la Garonne.
– 20h30 sur France Info, l'information avec Claire Brier-Lamarre. Bonsoir Claire.
– Bonsoir à tous, Emmanuel Macron salue un compromis constructif et de responsabilité. L'information ce soir, c'est donc cette proposition d'Edouard Philippe aux partenaires sociaux. Le retrait de l'âge pivot à 64 ans du projet de réforme des retraites. Retrait sous condition, les partenaires sociaux doivent trouver une alternative pour équilibrer le système des retraites. La CFDT salue cette proposition, c'est même une victoire selon l'UNSA. La CGT se dit plus que jamais déterminée à obtenir le retrait du texte. Du côté des communistes, on reconnaît un effort minime, mais Fabien Roussel, le secrétaire national du PC, s'interroge sur l'urgence du débat parlementaire.
C'est un tout premier petit pas, mais de fait, il n'y a plus d'urgence aujourd'hui à étudier ce texte de loi tant que la conférence sur le financement ne s'est pas tenue et tant que toutes les propositions n'aient pas pu être formulées pour trouver les moyens de financer une vraie réforme des retraites. On n'est plus à 4 mois près. Pourquoi aujourd'hui imposer toujours ce texte de loi avec brutalité au Parlement alors que son financement est reporté au mois d'avril ? Si le Premier ministre veut vraiment apaiser la situation, il peut retirer ce texte de loi au moins jusqu'à ce que cette conférence sur le financement soit tenue. Et nous souhaitons une conférence sociale pour le financement d'une vraie protection sociale, d'une vraie réforme des retraites.
Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Le projet de loi a mobilisé aujourd'hui, moins que jeudi dernier, 500 000 manifestants en France selon la CGT, 150 000 selon le ministère de l'Intérieur, avec notamment des heurts à Paris. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée interprofessionnelle et de grève jeudi prochain. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à un deuxième mandat, ce sera au mois de mars, donc pour les municipales. La question écologique sera le socle de son projet. Une équipe d'enquêteurs canadiens est attendu à Téhéran d'ici quelques heures, selon le Premier ministre canadien. Téhéran qui reconnaît avoir tiré par erreur un missile sur un avion ukrainien qui comptait à son bord 176 passagers irano-canadiens. Le Canada exige toute la lumière sur ce drame. En football, 20e journée de Ligue 1, victoire de Lyon 2-1 face à Bordeaux. L'OL qui remonte ainsi à la 4e marche du podium. Ont débuté il y a quelques instants Nîmes, Reims, Metz, Strasbourg. Strasbourg, Toulouse, Brest, Angers, Nice et Amiens, Montpellier. Et puis deux clubs français qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Toulouse qui a battu les Irlandais de Connacht 21-7. Clermont s'est qualifié 29-13 face aux Irlandais d'Ulster. Montpellier est mené sur la pelouse de Gloucester en Angleterre. Tout de suite, on va retrouver les informés avec Neila Latrousse.
Les informés, Neila Latrousse.
Et toujours avec nous, Patricia Issa de Grandi, journaliste à France 3, Philippe Gouliot, reporter, journaliste, longtemps accrédité à l'Élysée, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, et Robert Namias, journaliste écrivain et auteur de Fake News avec Michel Cotta, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Le gouvernement qui retire donc l'âge pivot qui devait entrer en vigueur en 2022, qui renvoie la balle aux syndicats pour qu'ils trouvent un moyen de pérenniser le régime de retraite, compromis constructif et de responsabilité pour le président Emmanuel Macron. L'UNSA et la CFDT saluent aussi la décision prise par Matignon. La CGT, quant à elle, considère que l'âge pivot n'est pas tant la question sur cette réforme. Philippe Martinez brocarde le flou qui entoure l'ensemble du texte. Écoutez.
Plus les jours passent, plus ils nous expliquent et moins de gens comprennent. Enfin, vous, si vous arrivez, vous, à m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète, je serai beaucoup plus attentif. Mais on nous a dit, vous allez voir... Tout le monde avec la carrière complète pourra toucher 1000 euros. Le ministre en charge de ce sujet, je lui ai posé la question devant des caméras de télé jeudi soir, il a parlé de trimestre, il a parlé d'annuité, il n'a pas parlé de points. C'est quoi ce gouvernement qui nous vend un truc ? Il faut qu'il change de commerciaux, si vous me permettez, parce qu'on n'y comprend rien.
Alors je précise que ces propos ont été tenus par le secrétaire général de la CGT avant la publication du courrier d'Édouard Philippe et qu'après la publication de cette lettre, eh bien la centrale syndicale CGT s'est déclarée plus que jamais déterminée à obtenir le retrait de l'ensemble de la réforme parce que Cécilia Gabizon, on le rappelle, dans cette réforme, il n'y a pas que l'âge pivot.
Non. Alors, il a pas tort complètement. C'est vrai que plus on en parle, moins on comprend quand même sur la réforme. Donc, il y a pas que l'âge pivot. Donc, l'essentiel de la réforme est qu'on passerait au lieu d'avoir des trimestres à des points, au cas où ça, on a réussi à le comprendre, et que ces points à la fin, ça ferait un montant. Simplement, on connaît pas le montant du point, et puis à la fin, on sait pas à quel moment ça va être mis en œuvre, et donc. Combien on aura dans notre poche quand on sera retraité. Mais donc, eux, ils veulent le retrait de la réforme parce qu'ils ne veulent pas passer d'une retraite qui était une retraite où on cotisait tous à une retraite par points, personnalisée, une retraite de forme libérale en quelque sorte. Mais moi, là, j'ajouterais quelque chose. On est déjà dans un système libéral. En vrai, on est déjà dans un système libéral sur la fin de vie. Ça coûte tellement cher d'être placé dans des établissements, sur la dépendance, qu'en réalité, c'est plus la retraite qui finance ça, c'est l'épargne personnelle des gens qui finance la dépendance. C'est-à-dire qu'en apparence, la retraite te fait vivre quand tu es âgé, mais à partir du moment où tu entres dans la dépendance, en vrai, ceux qui ont mis de l'argent de côté financent leur dépendance, et les autres se retrouvent dans des conditions très très précaires, terribles.
Robert Namias, Cécilia Gabizon, rappelait que l'essentiel de la réforme, en réalité, c'est le passage du trimestre ou des annuités au point. Qui décide de la valeur du point ? Est-ce que c'est tranché aujourd'hui dans
Ça n'est pas complètement tranché et c'est l'objet, l'un des objets des discussions futures entre les partenaires sociaux, indépendamment d'ailleurs de la question du point d'équilibre et de l'âge d'équilibre. Tout ça est encore... C'est une usine à gaz, de toute façon. Mais une réforme de cette nature, c'est pour ça que dire ils reculent sur la réforme, mais à partir du moment où ils font voter le passage d'un système, d'une retraite calculée sur un certain nombre de trimestres, à une retraite avec uniquement un calcul qui repose sur les points, chaque heure travaillée apporte un certain nombre de points, sauf qu'effectivement... Qui va calculer, comment vont être calculées les valeurs du point, on ne le sait pas encore, ça n'est pas parfaitement clair. Et ce sera une usine à gaz assez longtemps. Moi, ce qui me frappe par contre, et ça c'est normal, sur une retraite qui sera mise en place sur 30 ans, il est normal que les transitions soient extrêmement compliquées. Bon, ça, il ne faut pas s'en étonner, ça n'a rien de particulièrement surprenant. En revanche, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ait pris pour argent comptant le projet de Levoix, comme s'il avait livré une réforme quasiment finie. Alors, et on se demande, mais alors, il n'avait pas vu les avocats, il n'avait pas vu les pilotes de ligne, il n'avait pas vu les artisans, il avait juste vu la RATP et la SNCF pour leur dire vos régimes spéciaux, c'est terminé, ou quasiment. Donc, en réalité, ce travail-là qui aurait dû être fait avant, au moins pour se rendre compte qu'il y avait des cas spécifiques qui, de toute façon, c'est pas que le système n'est pas universel, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des régimes spécifiques naturellement, ce qui n'a rien à voir avec les avantages que peuvent avoir certaines professions et sur lesquelles on peut effectivement s'interroger, c'est tout à fait différent. Tout ce travail-là, on pensait que le rapport de Levoix l'avait fait, et on découvre qu'il ne l'avait pas fait. Si j'ose dire, le problème, il est là. Mais quant à dire, c'est une usine à gaz, mais bien sûr que c'est une usine à gaz, et bien sûr que ça restera une usine à gaz jusqu'à ce que la réforme rentre complètement dans les faits, c'est-à-dire pour ceux qui rentrent en activité aujourd'hui dans 40 et quelques années, et pour ceux pour lesquels la réforme par points va être effective à partir du vote de la loi, c'est-à-dire... Pour ceux qui sont nés après 75, ce sera dans 20 ans, ou à peu près, ou un peu plus.
Philippe Goulion, on peut imaginer que le calendrier initial tel qu'il est fixé prenne encore du retard, compte tenu justement de ses spécificités sectorielles, professionnelles, corps de métier par corps de métier.
Oui, c'est tout à fait envisageable. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que là, pour l'instant, toutes ces manifestations, toute cette contestation, elle intervient alors qu'on n'est pas entré dans le processus législatif. Le projet va être présenté en Conseil des ministres le 24. Il va arriver ensuite à l'Assemblée nationale. En parallèle, il y aura cette négociation sur le financement, de la commission sur le financement. À l'Assemblée nationale, il y aura certainement des gens qui vont déposer des amendements. Il y aura des polémiques, il y aura des protestations, de la contestation. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge.
Il a raison, Philippe Gouliot, Patricia Issiade-Grandier. On n'en est qu'au début des colères. On peut encore voir d'autres feux allumés.
Oui, parce que je pense que la CGT et FO ne vont pas hésiter à allumer d'autres feux. Parce qu'ils disent, oui, effectivement, l'âge pivot, mais ce n'était pas notre problème principal. Nous, le problème, c'est la retraite à point. C'est le fait qu'on compte la retraite, qu'on calcule la retraite sur toute la carrière et plus sur les 25 dernières années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public. Vous voyez, c'est tout ça. Ils vont sortir maintenant sur de nouveaux sujets qui ne plaisent pas nécessairement aux Français dans cette réforme des retraites et ils vont jouer là-dessus. De toute façon, là, maintenant, pour l'instant, maintenant l'âge pivot c'est réglé, ils vont aller discuter en conférence de financement. Mais il n'y a pas que ça dans ce texte et je pense qu'ils vont s'appuyer là-dessus pour tenter de rallumer un petit peu la flamme de la contestation.
20h40 sur France Info, le rappel de l'information, Guillaume Faurier.
L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi la semaine prochaine. Pas convaincu donc par le retrait sous condition de l'âge pivot du projet de loi, l'exécutif attend des solutions de substitution de la part des partenaires sociaux pour équilibrer le système des retraites. Aujourd'hui, cinquième journée de manifestation contre cette réforme. Le ministère de l'Intérieur recense 150 000 personnes dans les cortèges. Selon la CGT, 500 000 opposants au texte ont défilé à travers la France. La mobilisation contre le futur régime universel, c'est aussi la grève sur les rails. Toutes les lignes du métro ouvertes demain à Paris, mais avec un trafic très partiel. À la SNCF, les prévisions sont les mêmes qu'aujourd'hui, 8 TGV sur 10 et la moitié des TER. À 2 mois des municipales, Anne Hidalgo, maire de Paris, officialise sa candidature à un deuxième mandat. Au centre de son programme, l'écologie, avec notamment la piétonnisation des 4 premiers arrondissements de la capitale. Nous ne sommes pas de la chair à canon, ça devient insupportable. La réaction du délégué général du syndicat Alliance, un policier est entre la vie et la mort ce soir. Il a été renversé intentionnellement par un fourgon pendant une intervention la nuit dernière près de Lyon. Le conducteur est en fuite. Et puis ça passe pour Toulouse et Clermont-Ferrand. Les deux clubs se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Neil Alatrousse.
Et à l'instant, Guillaume Fariol évoquait cette phrase du syndicat policier Alliance. Nous ne sommes pas de la chair à canon, ça devient insupportable. Réaction après qu'un policier a été renversé près de Lyon. Il est entre la vie et la mort. Aujourd'hui, c'est ouvert au ministère de l'Intérieur une conférence citoyenne centrée sur les rapports entre forces de sécurité et population. Elles sont de plus en plus tendues. Une enquête a été ouverte après une vidéo où on voit un policier tirer au LBD à bout portant sur des manifestants. Réaction du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui défend ses troupes.
Il y a parfois des prises à partie de nos effectifs qui sont effectuées de manière extrêmement violente et il y a une réponse proportionnée qui s'effectue dans un cadre réglementaire. Vous savez, c'est la loi qui s'applique également à nos policiers et à nos gendarmes. Et quand il y a des fautes, eh bien, il y a des investigations sont menées.
Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker. On sent un fossé qui se creuse entre Français et policiers. Ça a un lien avec le sujet pour le coup des retraites et les mobilisations sociales puisque... Ces vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux, elles proviennent directement des manifestations, ou en tout cas, en marge de ces manifestations, on voit certains dérapages.
Ça a un lien, mais en fait, ça a commencé au moment des Gilets jaunes. Il y a eu également pas mal de violences policières. Et moi, je remonterais parce que on avait fait pas mal d'enquêtes à l'époque, je dirais, c'est-à-dire quelques années en arrière, seulement sur les violences policières en banlieue. Et on avait fait une cartographie, etc. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans l'atonie de la France, la désagrégation des grands mouvements, justement, de grève organisée, et cette espèce de colère sociale désorganisée, en fait, il y a de la violence aujourd'hui partout, et que les policiers, il y a eu vraiment quand même une escalade dans... alors, des violences policières, c'est pas la violence policière, on n'est pas dans un état policier, mais dans ces manifestations, il y a maintenant systématiquement aussi des actes de violence de la part des policiers. Et en plus, c'est documenté, donc on s'en rend compte. Et moi, je pense que là, ça va créer un... Enfin, d'abord, c'est super grave. Les gens ont peur. Hein. C'est super grave. La police ne peut pas... Elle n'est pas l'équivalent des manifestants. Elle est la représentation de l'État. Donc, c'est super grave. Et en plus, les gens ont aujourd'hui peur et ça accroît le divorce avec l'État. Et ses représentants.
Christophe Castaner, il a demandé à ce que les réponses soient mesurées. Il a dit que c'était tout à l'honneur justement de la police d'avoir un comportement mesuré et des réponses et un comportement exemplaire et équilibré. Robert Namias, est-ce qu'on sent un fossé qui se creuse néanmoins entre les forces de l'ordre et une partie des Français ?
Oui, moi ce que je crois, c'est ce qui est grave. Vous rendez compte qu'on est le 11 janvier. Le 11 janvier, il y a 5 ans, il y avait plusieurs millions de personnes dans les rues en France, dont 1,5 million à la République. 1,5 million, alors on n'est pas dans les 20 000, 30 000, etc. Et qui embrassaient la police. Après, Charlie Hebdo et le supermarché Cacher. 5 ans après, on est dans un état, effectivement, de violence invraisemblable. Vous disiez, les gens ont peur. Mais les flics ont peur aussi. Ils ont peur dans les banlieues de se faire caillasser. Et depuis longtemps. Ils ont peur. Quand vous regardez les
manifs... Ils ont peur en manifestation aussi ?
Pardon ?
Ils ont peur en manifestation aussi.
Quand vous regardez les manifs... Aujourd'hui, ils sont épuisés. Enfin, c'est un an et demi. Quand vous voyez la violence des Black Blocs, même s'ils ne sont que quelques dizaines, parfois quelques centaines, ils ont été jusqu'à quelques milliers, ils sont d'une violence extrême. Donc, effectivement, les violences policières aujourd'hui s'accumulent, et en plus avec des armes sur lesquelles on pourrait discuter, et dont il faut discuter. LBD, il faut en discuter. Ça n'est pas, peut-être, ça n'est pas normal de continuer d'utiliser ce moyen-là, dont on dit qu'effectivement, c'est le dernier avant l'arme létale. Il reste que, on est dans une situation où il faut s'interroger sur l'état de violence qui est grave. C'est que ça n'a cessé de se dégrader, je disais il y a 5 ans, mais c'est vrai que depuis un an et demi, depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, la violence est devenue invraisemblable dans ce pays. Il faut s'interroger sur cette violence. Et je pense que il ne suffit pas de dénoncer les violences policières, parce qu'elles sont nombreuses, et quand elles sont avérées, elles sont absolument insupportables et inacceptables. Mais c'est l'état de violence dans lequel se trouve notre société, sur lequel il faut s'interroger, et sur lequel il faut travailler. Travailler, mais très concrètement, pas simplement dans des colloques de sociologie. S'interroger sur les armes dont on dote les policiers, s'interroger sur le nombre de policiers, parce que la fatigue des policiers, c'est aussi le fait qu'ils sont vraisemblablement pas assez nombreux.
Justement, Robert,
c'est un vrai travail de fond, là,
pour vous évoquez la fatigue des policiers. Est-ce que l'angle mort de ces débats, c'est pas la prise en compte des troubles psychosociaux dans ce corps de métier, Philippe Gouliot?
Oui, les policiers, effectivement, sans doute, à bout. Ça n'excuse pas les violences auxquelles on a assisté ces temps-ci, bien sûr, mais il faut bien reconnaître quand même que les policiers sont submergés de boulot depuis les attentats. Il y a eu quand même...
Ils ont manifesté cette année, il y a encore quelques mois.
Oui, absolument. Et il y a eu quand même... Ils ont été très sollicités, ils ont assuré des gardes, ils ont été... effectivement, on se souvient de la chanson de Renaud, « J'ai embrassé un flic », et puis maintenant, c'est la France déteste les flics.
Suicidez-vous, maintenant c'est suicidez-vous.
Oui.
C'est insupportable à entendre.
Ils sont,
des slogans qu'on a entendus ici ou là.
Ils sont en burn-out, beaucoup, ils sont en sous-effectif, ils ont des horaires infernaux, pas de vacances, et puis n'oublions pas aussi quand même que la plupart du temps, ben, ils appartiennent, ce sont des prolétaires d'une certaine manière. C'est-à-dire que, sociologiquement parlant, ils sont plus proches des gilets jaunes que des ministres et des députés dont ils assurent souvent la sécurité. Et donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne gagnent pas très bien, ils ne sont pas très bien payés, ils ont des horaires infernaux, ils sont épuisés, et bon, mais effectivement, ça ne justifie pas ces violences et ça impose certainement une réflexion de fond, comme le disait Robert.
Cécilia Gabizon.
Oui, sur les... Là, quand on voit des scènes, effectivement, c'est des scènes un peu de craquage, mais elles ont l'air d'être faites avec un certain sang-froid. Alors, j'interprète des images d'être faites avec un certain sang-froid. Quand on voit ce policier qui fait un croche-patte à une manifestante, mais...
Très honnêtement, je l'ai pas vu, le croche-patte.
La violence absolument gratuite. Et donc, moi, je dirais, là, il y a un contexte très inquiétant. OK, tout ce qu'on a dit sur la situation sociale des policiers, la situation psychologique d'extrême tension et de craquage, et ça, normalement, finalement, si ça va devenir la nouvelle fonction de la police, c'est-à-dire finalement d'assurer aussi l'ordre dans ces conditions et que ça va devenir une réalité qui va perdurer, car on peut l'envisager. On considérait ces situations comme exceptionnelles, mais dans des pays qui sont très en conflit, avec des inégalités sociales, une dislocation des corps politiques, des intermédiaires, en fait ce genre de confrontation est amené à se reproduire probablement. Donc il faudra former la police à d'autres formes de maintien de l'ordre en fait.
Il faudra la former ou est-ce qu'il faut une plus grande sévérité face aux abus, ce que dit une partie de la gauche, trop grande tolérance.
Il y a une question, et moi j'avoue que je me la pose aussi autour du préfet de police de Paris, qui est finalement à un moment donné, il a donné un peu la fermeté, etc. Il est arrivé, et en même temps, certaines personnes de la gauche l'accusent d'être un peu, en tout cas, de couvrir ce climat de violence. Alors moi, on n'a pas des éléments pour l'accuser, mais par contre, ça n'existe pas ce genre de violence systématique répétée s'il n'y a pas quelque chose qui le laisse survenir.
Patricia Issa de Grandi, je le rappelle, vous êtes journaliste à France 3. Christophe Castaner a donc lancé ce matin les travaux d'une convention citoyenne sur les rapports entre population et forces de l'ordre. Les conclusions du livre blanc sont attendues fin février. Est-ce qu'il y a une prise de conscience à l'intérieur que ces tensions qui existent entre les garants de la sécurité et les Français, eh bien, ça va devenir problématique?
Eh bien, surtout, c'est que ça montre qu'il y a effectivement une prise de conscience, mais bon, ça reste des réunions. Après, le débat sur les violences policières, on l'a eu l'année dernière en 2019, et là, on est le 11 janvier, comme le disait Robert Nermias, et déjà, nous avons, lors d'un contrôle routier, un livreur qui est décédé. C'est inacceptable que de décéder dans ces conditions-là, même si c'est un contrôle routier, même quel que soit ce qu'a pu dire ou faire ce livreur, des gens qui sont frappés à terre, un tir de LBD à bout portant, c'est inacceptable. Et en plus, les autorités, la réponse des autorités quand il y a des dérapages comme cela, ils ne parlent pas de violence policière, ils parlent de violence de policiers. C'est-à-dire qu'en plus, les policiers, non seulement ils vont au devant, ils vont à l'affrontement, ils essayent de maintenir l'ordre, mais en plus, quand il y a des dérapages, parce que de toute façon, je pense que c'est inévitable, qu'à un moment donné, les hommes, ils sont pas infaillibles, eh bien, ils sont seuls. Et ça, c'est dangereux aussi pour... la cohésion d'un groupe, et notamment la police. Et
vous évoquiez ce livreur, c'est Cédric Chouviat, Cédric Chouviat, dont la famille sera reçue mardi par le ministre de l'Intérieur. Rapidement, Robert Nermias.
Oui, très rapidement, j'insiste pour redire ce que je dis tout à l'heure, mais pour répondre à cette question sur le fait qu'on pourrait s'installer dans une société, enfin, nous sommes dans une société de violence, la question des effectifs, c'est pas une question anodine. Une partie, les policiers eux-mêmes le disent d'ailleurs, une partie des difficultés, voire une partie des excès de violence sont dus aussi à une extrême fatigue, une extrême lassitude, une surchauffe totale qui est due aussi au fait que toutes les semaines, ils vont au charbon, quoi, quand ça n'est pas tous les jours. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de prendre leur défense, il s'agit simplement d'essayer de comprendre comment on peut arriver à une situation qui ne soit plus celle qui soit celle d'aujourd'hui, où la violence est effectivement de part et d'autre, et ou celle de des policiers qui devient d'une certaine manière celle de l'État n'est pas acceptable dans les conditions actuelles. Ça,
bientôt 20h52 sur France Info. On a un petit peu de retard. Vous êtes bien sur France Info et vous êtes bien avec Guillaume Fariol pour le rappel de l'info.
Emmanuel Macron salue un compromis constructif et de responsabilité. Le président de la République satisfait donc après les propositions du Premier ministre aux partenaires sociaux sur la réforme des retraites. L'exécutif retire sous condition l'âge pivot du projet de loi et attend désormais une alternative des syndicats pour équilibrer le système de pension. La CFDT et l'UNSA, elles aussi, saluent ce compromis. La CGT, elle, se dit plus que jamais déterminée à obtenir le retrait du texte. Un homme activement recherché depuis la nuit dernière dans le secteur de Lyon, le conducteur d'un fourgon qui a renversé intentionnellement un policier. Il est dans un état critique entre la vie et la mort. Le Premier ministre canadien appelle le président iranien à faire toute la lumière après le crash d'un Boeing près de Téhéran il y a 3 jours. 176 morts, dont de nombreux Canadiens. L'Iran reconnaît avoir abattu par erreur l'appareil avec un missile. Et puis 20e journée de Ligue 1 de football, 5 matchs en course à la mi-temps, avec entre autres 1-0 pour Amiens contre Montpellier. Pareil pour Angers face à Nice. Toulouse mène de 1 contre Brest.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Et ce soir, donc le Premier ministre qui retire l'âge pivot qui devait entrer en vigueur en 2022. Mais il y a une autre annonce, il y a une autre information ce soir, c'est la fin d'un vrai faux suspense. Alors pour le coup, on est vraiment dans la politique politicienne et électorale. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui confirme briguer un deuxième mandat, la maire de Paris, hier présentait ses vœux aux élus. Et elle a commencé à défendre son bilan. Vraiment, pour le coup, on est dans la fin d'un vrai faux suspense. Débat dans quelques instants. On écoute d'abord Anne Hidalgo.
En 6 ans, le monde a changé. Notre manière de vivre a changé. Ce qui a changé, c'est cette prise de conscience collective qui est née et qui a grandi sous nos yeux, que nous avons accompagnée, que nous avons soutenue, que nous avons portée et qui fait de ce mandat la première ligne d'un nouveau chapitre de notre histoire. La prise de conscience écologique a changé notre rapport au monde et à Paris.
Cécilia Gabizon, elle évoque l'écologie. Anne Hidalgo, est-ce que la campagne se fera forcément sur ce thème-là?
Oui.
On sait que le bilan est mitigé de la mer. Hein. Là-dessus, il y a débat sur le bilan écologique d'Anne Hidalgo. Hein.
Oui, mais en fait, alors on lui reproche beaucoup de choses, mais elle a pris un tournant il y a déjà quelques années, elle l'a accentué il y a 2 ans, de manière très autoritaire comme on sait, mais en tout cas elle a pris le tournant de limiter la pollution, de limiter la circulation dans Paris, un tournant et un bras de fer donc écologique pour des raisons environnementales, et en fait aujourd'hui je pense que les gens pour qui s'intéressent à ces questions, et ça s'est énormément accéléré, c'est-à-dire c'est tout le monde qui s'intéresse à ces questions, ont réalisé que ça ne se faisait que dans le combat, que dans le bras de fer et pas dans la négociation, donc quelque part elle est en train d'engranger Anne Hidalgo. Alors il y a toujours des gens qui la détestent, hein, mais elle est en train d'engranger ce qu'elle a lancé avec offert, sans discussion, de manière très autoritaire, mais elle est en train d'engranger une certaine forme de reconnaissance sur sa volonté de faire de Paris une ville sans voiture.
Et la question du jour, elle est en une du journal Libération. Hidalgo peut-elle perdre ? Titre Le Quotidien, et répond en page intérieure, un boulevard pour Hidalgo. C'est le cas, Philippe Gouliot, elle est imbattable.
Non, pas du tout. Personne n'est imbattable dans une élection. Elle a pas mal d'avantages parce que elle est sortante et traditionnellement, quand même, il y a une petite prime aux sortants, plus ou moins grande. C'est vrai ce que disait Cécilia. Elle a marqué des points sur l'environnement. Là, maintenant, elle veut faire de Paris une ville 100% vélo. Elle définit aussi une notion de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire une organisation en quartier, dont chaque quartier, l'école serait la capitale du quartier. Enfin, tout ça, c'est quand même de belles idées. Bon, après, ça fait quand même 19 ans qu'elle est aux affaires, comme première adjointe de Bertrand Delanoë, puis comme maire depuis 6 ans. Bon, ben voilà, s'il y a une alternance, c'est pas dramatique, hein.
Patricia Issa de Grandier, elle a un bon bilan, la maire de Paris, où sa longueur d'avance s'explique davantage par la division, pour le coup, de ses challengers.
Sa longueur d'avance s'explique par le fait que ses challengers sont divisés. On pensait que Benjamin Griveaux avait un boulevard, et puis en fait, Villani est apparu. Déjà, Madame Dati, elle va faire campagne, mais je pense qu'elle ne va pas faire non plus une très grande campagne. Elle-même est un peu critiquée au sein des Républicains.
Et critique les Républicains.
Et critique les Républicains, d'ailleurs, aussi, notamment sur les têtes de liste. Et même si Madame Hidalgo est assise sur un parti, eh bien le Parti socialiste qui est exsangue, que le Parti communiste est également assez faible et que les Verts pour l'instant veulent faire leur campagne, elle peut gagner sur mais vraiment ce sera à rien. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure justement, c'est que ça sera vraiment à rien, ça sera dans la deuxième ligne droite.
Si c'était une élection politique, les municipales, contrairement à ce qu'on dit, moi je ne pense pas que ce soit une élection politique majeure, c'est une élection où la personnalité du maire et la personnalité des candidats jouent beaucoup plus que la couleur politique. Si c'était une élection purement politique, elle serait battue à plate couture. En Marche a été écrasant aussi bien aux présidentielles qu'aux législatives et même aux européennes d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, l'électorat parisien intramuros est tout à fait macroniste et En Marche. Pour le coup, compte tenu de la situation particulière dans En Marche à Paris, de Griveaux-Villani, du passé d'Hidalgo, ça reste très ouvert, je crois.
Et du mode de scrutin.
Ça peut se terminer à la mairie, oui, au moment du vote pour le maire.
Anne Hidalgo qui lance sa campagne officiellement demain. Merci d'écouter France Info 20h57. Merci à nos informés. Patricia Issa de Grandi, journaliste à France 3. Philippe Gouliot, reporter longtemps accrédité à l'Élysée, décryptage fameux et éclairant pour nous sur les stratégies présidentielles. À vos côtés également, Cécilia Gabizon, fondatrice de la School Media Maker, et Robert Namias, journaliste, écrivain, auteur de Fake News avec Michel Cotta. C'est édité chez Robert Laffont. Merci à tous et bonne soirée sur France Info.